S'il y a des personnes qui aiment bien prendre des notes, et moi j'ai nommé cette prédication Restauration et Restitution. D'accord ? Pas restauration pour les restaurants, parce que c'est un peu pareil. Moi, comme je suis d'origine colombienne, j'ai la difficulté à voir la différence en français, mais pour nous c'est différent. C'est un peu différent, mais ici. Peut-être que des fois, c'est la même chose. Alors, restauration et restitution. Je me rappelle que ça fait 4 ou 5 mois, et le Seigneur il m'a donné la grâce de reprendre un peu et de faire quelque chose que j'aime bien, et c'est prêcher et partager la parole de Dieu. Alors, peut-être que tout le monde connaît un petit peu notre histoire. On a passé 12 ans et demi à Portugal. J'étais comme pasteur là-bas avec toute ma famille. Et après, il y avait un moment que les choses ne sont pas bien tournées. Et ça s'arrêtait. Après, j'ai dit, bon, Seigneur, peut-être que c'est fini. Peut-être que ce n'était pas mon ministère. Peut-être que j'ai commis un erreur. Et jamais je retournerai à faire quelque chose que j'aime bien faire. Après, j'ai traversé des moments difficiles et je me rappelle que le Seigneur, petit à petit, il a commencé à faire un travail de restauration. Alors, quand j'étais en Espagne, ça fait 4 mois, j'ai un ami qui est pasteur là-bas et qui avait traversé une situation très similaire à la situation que j'ai traversée quand j'étais dans l'église que j'étais avant. Alors, ça m'a encouragé de voir comme le Seigneur, il peut agir dans la vie d'une personne qui a tombé ou qui a été dans le fond. Et ça, c'était mon cas. Alors, quand j'ai passé à les visiter, parce que j'étais avec toute ma famille en Espagne pour faire de documentation, pour arranger les choses, parce qu'on a la nationalité espagnole aussi. Alors, à ce moment-là, j'ai mon ami qui m'a dit, Oscar, le Seigneur a pris dans mon corps que tu viens prêcher à mon église. Alors, pour moi, c'était la grâce de Dieu, vraiment, parce que je ne mérite pas. Pour moi, c'était la guérison, donc quelque part. Et après, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai pour partager? Alors, c'est ce message que j'ai ce matin pour vous. Et c'est comme, même si on est dans la situation plus difficile, si on est cassé, si on est brisé, si on est dans une situation peut-être de sécheresse, comme on a parlé ce matin, comme le Seigneur, il peut changer cette situation, nous restaurer et plutôt nous donner la restitution. Parce que ce n'est pas seulement la restauration que le Seigneur il veut pour toi et pour moi. C'est plutôt nous restituer quelque chose que l'ennemi il a voulu tuer et nous retirer. Alors, on va rester sur les versets, sur 12 chroniques, 12e livre chronique. 7, et je pense que c'est très, très, très connu ce passage que je vais partager. Mais moi, le Seigneur, il m'a montré, on va dire, 7 points ou 7 étapes que j'ai vécues dans ma vie et de quelle manière le Seigneur, il peut restaurer. Moi, il y a hier, quand on a été dans cette rencontre des églises, j'aimais bien écouter à Luc Maroni. C'est un pasteur de Lens, dans le sud, un peu le nord de la France, je pense. Et après, il a partagé quelque chose qui m'a touché. Il a parlé de la polycrise qui traverse le monde. C'est quoi une polycrise? Ça veut dire qu'il y a une crise. On est dans une crise et on ne peut pas fermer les yeux qu'il y a une crise économique et sociale dans le monde. Qu'il y a une crise, et on a prié, climatique. Qu'il y a une crise aussi à niveau des familles, familiales, d'accord? Qu'il y a une crise et que ça, on commence à voir que c'est une crise aussi alimentaire. Qu'il y a une crise aussi que c'est à niveau énergétique. On ne peut pas fermer les yeux et être aveugle devant la situation qu'on voit. On ne peut pas oublier qu'il y a une crise sanitaire aussi, après le Covid, il m'en nomme à chaque fois. Il y a la peur que toujours il va y avoir une autre épidémie, peut-être pareille ou différente à l'épidémie qu'on a vécue. Alors, on est dans une crise de paix aussi. Parce qu'il y a la guerre et on vient de prier pour ça. Alors, ce n'est pas pour décourager. Moi, mon message, c'est pour nous encourager. Parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. Alors, on ne peut pas oublier qu'on est dans une crise. Alors, moi, je voudrais parler directement avec toi ce matin. Parce que je parlais de toutes les crises qu'on trouve dans le monde entier. Mais je vais te demander ce matin, c'est quelle la crise que tu traverses aujourd'hui? Je vais te donner 10 secondes pour que tu penses. Aujourd'hui, il y a quelque chose dans votre vie qui doit être restauré. Il y a quelque chose dans ta vie qui doit être restitué. Peut-être c'est la santé. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qu'il fallait de la santé, qu'ils sont dans une situation difficile, il fallait la guérison. Peut-être que ton cas, c'est les relations. Je ne sais pas, au niveau des couples, au niveau de parents avec les enfants. Peut-être à niveau des relations familiales, un petit peu plus loin. Peut-être des relations dans l'église. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une guérison, d'une restauration de la relation avec Dieu. Parce que ça nous arrive aussi. Des fois, on est dans un temps de sécheresse personnelle qu'on n'arrive pas à nous retrouver avec le Seigneur. Et moi, je l'ai vécu. Et c'est très, très, très moche, cette expérience. Quand on pense qu'on a déçu le Seigneur, qu'on a fait une bêtise, qu'on s'est trompé, qu'on a fait quelque chose pas bien. Et après, être dans cette situation ne s'empêche pas, des fois, de voir la gloire et le pardon du Seigneur. Alors, je pense que tout le monde a bien réfléchi. C'est quoi la crise que tu as maintenant? Et c'est dans quel domaine que tu as besoin que le Seigneur te restaure et te donne la restitution? Parce que le Seigneur, il va le faire. Et on va prier à la fin. Que le Seigneur, il va commencer pour restaurer pas seulement nos vies, nos familles et nos églises. Et pendant ce week-end, j'écoutais tout le temps de proclamer, parce qu'on a été appelé à gouverner dans la terre. La parole dit que le Seigneur il a créé la terre et après il a donné l'autorité à Adam et à Ève pour gouverner dans la terre. Alors, bien sûr qu'on ne va pas gouverner de la manière qu'on pense. Bien sûr qu'on n'est pas dans le dominionnisme de penser que c'est nous qui on va établir le royaume de Dieu dans la terre. Mais on ne peut pas oublier une chose, que le Seigneur, il nous a appelé à gouverner. Et que c'est le moment, on traverse le moment de crise. Et c'est le moment que les enfants de Dieu, ils vont se réveiller pour faire la différence. Et c'est ça l'appel que le Seigneur, il a pour nous. Amen. Alors, c'est quoi restaurer? Restaurer, ça veut dire prendre une chose qui a perdu sa valeur, qui a perdu, qui a perdu pas seulement sa valeur, qui a perdu sa beauté et qui a été laissé à côté, il sait le rendre comme il a été à l'origine. C'est ça, restaurer. Pour ne pas oublier que le Seigneur, il avait donné à Adam et à Ève un mandat, mais il a tout donné, mais qu'on a perdu tout ça à cause du péché. D'où Chronique 7, verset 14. Je vais lire tout complet et après je vais commencer à nommer les points que je vais partager. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Amen. C'est une parole qu'il faut que nous la rappelions pour cette période et pour cette époque. Pas seulement dans le monde, dans nos vies. Alors, c'est quoi la première étape que je vais nommer? C'est où qu'on va commencer pour restaurer la situation que tu as pensé quand j'ai demandé qu'il fallait restaurer. Alors, la première étape, c'est notre identité. C'est restaurer l'identité. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que c'est le Seigneur qui t'a appelé, tu pourras restaurer rien dans ta vie. On vient de lire verset 14:1. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Il nous rappelait que nous, on est enfants de Dieu. La parole nous dit, Jean 1, verset 12, et je vais paraphraser un peu parce que je ne connais pas la version en français. Tout que le Seigneur il a appelé, il nous a donné, quand on a reçu le Seigneur, on a le droit d'être enfant de Dieu. Et c'est ça la promesse qu'on a. Il faut que toujours, quand on se retrouve face à la difficulté, face à les problèmes, il faut nous rappeler que nous, on est enfants de Dieu. Et je pense que c'est la chose plus claire qui va nous aider pour pouvoir nous rétablir, pour sortir. Peut-être que des fois, on est dans un trou et c'est ça qui va nous permettre de regarder aux yeux et dire, Seigneur, tu es là, tu es mon Père, je suis ton Fils et tu vas m'aider. La semaine dernière, le mercredi, j'ai partagé un peu par rapport à l'identité et j'ai partagé comme l'ennemi, il essaye de détruire la paternité. Et c'est ça la première chose que l'ennemi va essayer de casser. On est dans une crise familiale et l'ennemi, il essaye de casser la famille. Et quand la famille il est cassée, il y a un homme qui est d'un côté, une femme d'un autre côté, et après il y a leurs enfants qui vont vivre et traverser cette difficulté. Alors, tout ça pour dire quoi? Que l'ennemi, il essaye de détruire l'identité, parce que notre identité, c'est qu'on est enfant de Dieu, et qu'on a un Père qui nous garde, qui nous aime, qui va nous recueillir, que si on va lui demander un morceau de pain, il ne va pas nous donner une pierre, c'est ça qui dit la parole. Que si on va lui demander de manger un bout de viande, il ne va pas nous donner une serpent ou quelque chose comme ça. C'est ça le Dieu qu'on a. Un Dieu de miséricorde, de grâce, d'amour, un Père qui nous reçoit à chaque fois qu'on fait des bêtises. Luc 11, je ne vais pas lire tout, parle de le fils prodigue. Prodigue, non c'est ça. Merci Hélène, tu vas m'aider. Merci. Et parle de prodigue. Et c'est quoi? C'est l'histoire que tout le monde a vécue, moi personnellement. Ah, j'ai fait une bêtise, j'étais en train de marcher avec le Seigneur. Et après, oui, c'est vrai, je m'ai trompé, j'ai commis un erreur. Mais je n'étais pas condamné parce que le restaure, il te relève. Peut-être que tu penses, oui, c'est fini, jamais je vais me rétablir de cette situation que j'ai vécue. C'est fou, c'est l'ennemi qui parle. Alors, quand cet fils, il a dit, oh, j'aimerais bien sortir de la maison de mon père. Je pense que je vais faire un peu la fête. Je vais à partir. J'aimerais bien connaître un peu le monde entier. Voyager, non? J'aime bien voyager. Et après, il a dit, bon, papa, donnez-moi l'argent. Donnez-moi la partie qui... Et je pense que c'était pas mal, hein, la partie qui lui correspondait. Et après, il a pris. Tout le monde connaît l'histoire. Il a dit, bon, ciao, papa. Il est parti. Il a cherché le monde. Et tout le monde connaît l'histoire. Il a été dans le fond. Il n'avait pas même pour moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retrouvé son identité. Après, il a regardé, il a dit, oh, je me rappelle que dans la maison de mon père, il y a la nourriture. Et même, les animaux, ils mangent mieux que moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation? Pourquoi je suis dans cet endroit et dans cette situation? Oui, il y a des conséquences. Quand on fait des bêtises, il y a des conséquences. Mais heureusement, on a le Seigneur qui est au-dessus de cette situation qu'il avait traversée. Et quand il prend la décision, il dit, je vais chercher mon père. Il part. Et après, il y avait un père qu'il attendait. Avec quoi? Avec l'amour, avec la grâce, avec des cadeaux, avec une fête. Et c'est ça les dieux qu'on a. Je te parle, si tu t'es éloigné du Seigneur, comme je l'ai fait dans un moment, c'est le moment de revenir à lui. Je ne sais pas si cette parole c'est pour toi, mais pour moi c'était comme ça, de revenir à lui. Parce que c'est dans les bras de mon Père que je vais trouver la paix, je vais trouver l'amour, et je vais trouver la restauration qu'il va me restituer. Et c'est ça qu'il a fait avec cet homme. Alors, premier pas, on ne peut pas oublier, c'est l'identité, famille, c'est l'identité. Je ne vais pas lire les autres versets que j'avais préparés, mais il y a des paroles qui disent qu'on a été formé dans le ventre. Et le Seigneur, il a connu déjà quand on a été dans le ventre, non, c'est dit comme ça, de notre mère. Alors, il y a des versets, par exemple, Isaïe 43, 1, 2, je ne vais pas lire, qu'il a dit qu'il a payé un prix pour nous, et qu'il nous a racheté déjà. Alors, pour moi, le plus important de l'identité, c'est un pensée personnelle. Pour moi, le plus important de l'identité, c'est la paternité. C'est voir Dieu comme un père. Parce que c'est ça qui va nous permettre de revenir toujours à lui. N'est-ce pas, Isabella? C'est ma fille, c'est ma fille. J'ai dit parce qu'il vient toujours. Alors, deuxième pas qui m'a aidé dans ma restauration personnelle. Et ça, c'est très important. Parce que des fois, c'est la plus difficile. Voir le Seigneur comme un père, bon, on dit, bon, ça va, je peux accepter, c'est la grâce, c'est l'amour. Mais le deuxième point que je vais évoquer, c'est difficile parce que c'est moi qui dois faire quelque chose. Alors, je vais revenir parce qu'on est toujours là dans 2 Chroniques 7, 14. Alors, si mon peuple, l'identité, sur qui est invoqué mon nom, et écoutez ça, qui dit Marie-France? Soumili, soumili, ça c'est la deuxième, l'identité, mais il faut s'humilier devant le Seigneur. Quand on reconnaît qu'on a commis une erreur, quand on demande pardon à lui, et c'est ça qui a fait le fils prodige, il a dit oui, je m'ai trompé, j'ai fait une erreur. Alors, j'aimerais bien lire 1 Pierre 1 Pierre 5, versets 5 et 6. C'est important ça. Humilité et vigilance. Et ça parle à l'Église aussi. Verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Soumission, travailler en équipe, nous aider un les autres, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. C'est ça qui fait que l'Église il peut travailler ensemble, reconnaître le ministère des autres, reconnaître que l'autre il est bon pour faire ça, pour faire, et comme ça on pourra travailler en équipe. Et dans ce cas-là, pour la restauration, nous humilier devant le Seigneur et reconnaître qu'on a commis un erreur, c'est ça qui ouvre les portes. Je continue, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de toi. C'est lui qui prend soin de nous. Je finirai cette étape avec un verset que j'aime bien, que j'adore et que je nomme tout le temps. Et c'est le Psaume 51. Je vais aller chercher parce que j'aimerais bien lire dans une autre version différente. Psaume 51, 19 et Moi, je vais regarder dans la Bible doucement, parce que moi, j'aime bien cette version. Je suis en train de connaître les versions en français, mais j'adore de regarder à droite, à gauche, parce que j'aime bien la parole. Et moi, j'ai trouvé ce matin, quand j'ai préparé ça, il dit, je vais lire à partir de 17, « Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai, car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. » Je t'aurais offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Écoutez ça, c'est David quand il avait commis l'erreur. C'est la prière de David quand il avait tué l'homme qu'on sait qu'il a tué dans la Bible. Alors, on a parlé plusieurs semaines par rapport à David. Et c'est David qui dit, le seul sacrifice qui convient à Dieu, c'est un esprit humilié. Oh Dieu, tu n'écartes pas un corps brisé et contrit. Gardez cette parole dans ton corps. Tu peux faire n'importe quelle bêtise. Tu peux te tromper. Mais si tu viens devant le Seigneur avec un esprit brisé et un corps qui se positionne devant lui pour lui dire, Seigneur, faites-moi grâce, le Seigneur, il va te relever. Et moi, je le sais parce que je l'ai vécu dans ma vie. Ce n'est pas seulement comme on dit, ce n'est pas une expérience que j'avais écoutée. C'est quelque chose qu'on voit et qu'on dit, Seigneur, si ce n'est pas pour toi, je ne pourrai pas me tenir debout ici ce matin. C'est sa grâce, c'est son amour. Et c'est pour ça que je remercie le Seigneur pour toutes les choses qu'il a fait. Et je sais qu'il peut faire dans ta vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. Alors, deuxième point, s'humilier. Troisième, ça représente aussi un effort de notre part. La première partie, c'est l'identité, c'est le Seigneur qui nous a donné l'identité. On a passé pour nous humilier, hein, que c'est des fois les choses plus difficiles, demander pardon au Seigneur. Mais on est dans un troisième point et on va retourner à 2 Chroniques 7. Verset 14. Moi, je vais changer la version. C'est bon. J'ai fait une bêtise. Alors, c'est quoi la version que je cherche? LSG. Chronique 7, je prends un peu de temps, désolé, et je ne sais pas pourquoi je trouve la version que je cherche. Bon, c'est bon, je l'ai trouvée. Alors, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, troisième point, prie. Pourquoi c'est important la prière? Vendredi matin, moi, j'aimais le partage de Rodrigue Sacramento. Il nous a évoqué Exode 17. Je vais partager un peu ça ce matin, parce que ça convient à la prière. La parole, il dit qu'il y avait une guerre, une bataille dans le peuple d'Israël. Et c'était avec, je ne sais pas comment c'est dit en français, Edouard, tu peux m'aider? Non, les Amalécites. Non, c'était les Amalécites, oui. Je ne sais pas comment c'est dit en français. Alors, il y avait la guerre d'Israël. Et Moïse, il était le chef de l'équipe. Et après, il a dit, bon, on va travailler ensemble. On va travailler en équipe. Moi, je vais monter. Je vais aller à la montagne. Et je vais ramener une équipe. Et cette équipe, c'était Aaron. Et c'était Hur. Hur, merci Edouard. Hur, que c'était à tes côtés. Et après, il a dit à Josué, bon, on va faire un travail d'église, on va faire un travail en équipe. Il y a quelqu'un qui va être devant, il y a deux qui vont être avec lui pour le soutenir, mais après, on va envoyer des gens sur le terrain pour se battre. Et après, il a dit à Josué, Josué, viens, tu vas préparer toute l'armée, et après, tu vas faire la guerre. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé un lieu haut. C'est dit comme ça, non? Lieu haut. Il a trouvé un lieu haut pour retrouver le Seigneur, pour prier. Alors il y avait dans la main sa verge. Oui, c'est bon, un bâton. Il avait un bâton. Et bon, tout le monde connaît l'histoire des bâtons, mais il a été avec les mains levées. Et quand il était fatigué, il y avait les copains, les amis, les collègues à côté qui l'aidaient pour les soutenir. Et c'est ça que c'est l'unité. Je voudrais bien introduire ici un peu l'unité, mais je parle de la prière. Parce que un symbole de la prière, c'est aller à la montagne. Je pense que j'ai parlé déjà une fois ici, je ne sais pas si un mercredi ou un dimanche, mais la prière, c'est payer les prix pour préparer un lieu secret. Alors, ce n'est pas un lieu physique. Et c'est ça, on a travaillé dans un atelier par rapport à ça. C'est quoi l'endroit que tu as pour rentrer dans la présence du Seigneur? Est-ce que tu as un lieu haut dans ta maison? Hein? Et moi, j'ai partagé mon expérience parce que pendant longtemps, les lieux hauts, les miens, c'était un peu à la maison, mais après, que c'était très important pour moi, c'était dans la voiture, dans la camionnette tous les matins avec ma femme pour prier en couple. Parce que j'aimerais bien dire aussi que c'est important de prier en couple. Peut-être pas toujours, peut-être pas tout le temps, parce que des fois on ne voit pas, ou des fois les jeunes ils profitent pour dire ah, je vais profiter cette fois que je vais à prier avec ma femme et je vais commencer à mettre des choses, à mettre des versets qui vont les frapper, pour les montrer la Bible, pour voir si elle peut changer. Hein, des fois, ça arrive, ça m'est arrivé, je l'ai fait plusieurs fois. Hein. Il y a ma femme ici qui peut dire que c'est vrai. Hein. Mais des fois, on utilise ça pour ça. Non, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, on va conclure. Il faut trouver un lieu haut pour chercher le Seigneur. Tu peux choisir, mais il faut rentrer dans la présence du Seigneur. Il faut lui parler. Il faut lui demander pardon. Il ne faut pas seulement s'humilier un jour et reconnaître nos péchés. Il faut continuer à travailler dans une relation jour à jour avec lui. Parce que c'est ça important. Ce n'est pas seulement dire, Seigneur, je m'ai trompé, je sais que j'ai commis une erreur. Je pense, et quand on regarde la Bible, la Bible ne parle pas après qu'est-ce qui s'était passé avec les fils prodigues. Mais on a vu qu'il y avait un autre fils à la maison, qu'il n'y avait pas de communion avec son père parce qu'il était jaloux. Hein? Vous vous rappelez, quand il a vu l'autre, mais papa, lui, il a fait des bêtises, il a gaspillé de l'argent, il a fait tout, et après il arrive à la maison et tu vas lui donner tout. Alors, et moi, que j'étais là, mais il n'avait pas la communion avec son père. L'autre fils, il n'avait rien, jamais il avait profité de tout l'argent qu'il avait son père. Alors, on ne peut pas être comme l'autre fils qui n'avait pas de relation avec le Seigneur. Il faut les chercher en prière. Et c'est très important, maintenant, la prière. Alors, on vient d'une église, on va dire, on sait que prière dans l'esprit, c'est prière en langue. Alors, pourquoi pas les faire comme ça? C'est ça que dit la Bible. Des fois, on ne trouve pas les mots pour prier. Des fois, on est dans une situation que quand on va prier, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire en face à cette situation? Mais pourquoi pas profiter le moment pour dire, Seigneur, je vais prier en langue. Moi, mon collègue René, il a dit que j'ai pu louer, il chantait pendant la nuit. Mais pour moi, c'est plus une prière que j'ai fait en langue, hein, pendant que je dorme. Ah oui, c'est ça, c'est très spirituel. Hein? Non. Je l'ai dit, hier, on a rentré trop tard et j'ai dit, je pense que je vais te manquer. Parce que maintenant, il n'arrive pas à dormir sans bruit. Ouais, tu vois? Parce que ma femme, elle est habituée déjà. Non, à ma femme, elle est habituée. Ah, il faut rigoler un peu. Bon, je m'ai perdu. Bon, je retourne, je rentre. Désolé. Ah, c'est très important, la prière. 2 Chroniques 6, 26, par rapport à la prière. D'accord? Je vais. Voilà, 2, 6. J'espère que c'est le bon verset. Oui. Regardez ça. Et ça, c'est une promesse qui... Je n'avais pas parlé de la pluie avec Edouard et je ne savais pas. C'est par l'Esprit qu'il a prié pour la pluie ce matin. Et regardez les versets que j'avais. D'accord. Deux Chroniques 6, 26. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi. S'ils prient, si on prie comme on a fait ce matin avec Edouard, il était conduit par l'Esprit à prier pour ça. Si on prie dans ces lieux, ils rendent gloire à ton nom et ils se détournent. Mais il faut faire quelque chose aussi. Je parlerai après parce que c'est le point d'après. Détourne de leurs péchés parce que tu les auras châtiés. Exaucez-les des cieux, pardonnez les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher. Et j'ai fait venir, écoutez ça, la pluie. Je ferai venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. C'est la terre que le Seigneur nous a donnée pour héritage. Il a promis qu'il va envoyer la pluie. Parce que la pluie, c'est un symbole de bénédiction et de Saint-Esprit. Et c'est ça qu'il fallait maintenant dans la terre. Mais il faut avoir l'identité, s'humilier devant le Seigneur, et il faut prier. Quatrième. Ah, ça, j'aime bien. Le quatrième. Je retourne, je vais rentrer sur les 7, 14. C'est bon, je l'ai. Alors, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Famille, il faut chercher le Seigneur face à face et pas seulement dans la prière, dans la louange, dans les chemins que je traverse à chaque fois. Le Seigneur, ce n'est pas seulement... Je parlais de trouver un lieu, mais tu sais, Moïse, il n'a pas resté toute la vie là-haut avec ses copains. Bien sûr qu'il a prié. Il y a des moments qu'on va, on va décréter, on va déclarer des choses et le Seigneur, il va agir, mais il faut continuer la vie. Et c'est le face-à-face avec le Seigneur. C'est la présence de Dieu qui va nous faire grâce pour témoigner devant le monde entier. Alors, c'est avoir une relation d'intimité avec le Seigneur. J'ai connu pas mal de personnes dans quelques ministères forts dans la prière, qui venaient à l'église à prière, et c'était toujours la prière et la prière, des personnes avec d'appel pour la prière. Mais j'ai vu aussi, dans deux cas, cette personne qui n'écoutait pas la voix du Seigneur. Alors, bien sûr que c'est important la prière. On vient de dire que c'est le troisième point. Mais il faut avoir la communion avec lui. Parce que moi, je ne sais pas si vous avez trouvé dans la rue des personnes qui aiment bien dire, parler, et jamais ils vont écouter. Ça m'arrive souvent. Personne que je suis dans la rue, je vais vous dire quelque chose. Après, c'est des personnes qui parlent. Et après, à la fin, ah oui, c'est fini la conversation et je n'ai rien dit. Imaginez avec le Seigneur. Tu vas parler tout le temps. Tu dis, ah Seigneur, pardonnez-moi, j'ai fait ça. Après, tu parles. Tu peux prier 3 heures ou 4 heures. Moi, je n'aime pas trop la religiosité. Moi, je préfère la grâce. Je préfère la onction du Seigneur. Alors, on pourrait dire, non, je vais prier 3 heures, 4 heures. Ça, c'est trop spirituel, non? N'est-ce pas? Mais à quel moment je vais écouter le Seigneur? À quel moment je vais aller donner l'opportunité au Seigneur de qu'il me parle pour l'obéir, pour marcher avec lui? Et le Seigneur, il y a un appel particulier pour chacun de nous. Alors, on laissait, on l'a écouté, on a laissé le Seigneur nous parler. Quand on a un souci avec un voisin, quand on a quelque chose en difficulté, des fois on agit rapidement, même sans demander au Seigneur. Ou des fois, on dit, ah Seigneur, avec mon boisson, qu'est-ce qu'on peut faire? Et tu peux les virer, tu peux arranger cette situation. Merci Seigneur, amen. Et ciao. Et après, on ne sait pas. On peut lire la parole, non? N'est-ce pas? Pour chercher le Seigneur d'une manière différente. Et après, le Seigneur, il peut nous parler de plusieurs manières. Hein. Moi, je ne suis pas carré pour écouter la voix du Seigneur. Mais c'est vrai que moi, personnellement, et c'est une confession que j'ai faite devant vous, moi, j'adore la parole. Alors moi j'aime bien quand le Seigneur il me parle par la parole, parce que c'est la comme on dit, c'est la parole prophétique, c'est le plus sûr qu'il y a. Alors des fois, il parle de différentes manières. Il m'a parlé de la parole dit que même si on ne va pas écouter sa parole, peut-être que les roches ils vont commencer à parler, à nous parler aussi. Alors des fois, on n'est pas attentif à ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans les problèmes. Et ça m'arrivait à moi. J'étais soumis pendant un mois dans une situation que je pensais, Seigneur, comment je vais sortir d'ici? Je suis en Colombie, je laissais Portugal, mes filles, ils ne sont pas dans un collège parce que je n'avais pas le droit de les scolariser. Et c'était le mois de janvier 2019. Après, je dis, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, j'ai traversé des situations difficiles avec ma femme. Peut-être qu'on va nous divorcer. Alors, je dis, Seigneur, c'est tellement de choses que j'avais dans la tête que je dis, Seigneur, pas comme je peux prier. Et même, j'étais en face à la parole et des fois, je n'avais pas envie de lire la parole. Je ne sais pas si c'est arrivé une fois. Mais moi, ça m'est arrivé aussi. Mais je n'avais pas envie de lire la parole. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que tu vas me dire? Parce que tu sais, j'avais perdu le plus important, que c'était l'espoir. Et l'espoir, il est lié un peu à la foi. Je ne peux pas dire que j'ai perdu la foi complètement, non, parce que le Seigneur, il l'a fait. Mais des fois, on est trop dans le fond qu'on commence à perdre l'espoir que le Seigneur, il peut faire les choses d'une manière différente. Après, le Seigneur, il va rétablir. On continue. Et 5 points. J'ai fini avec les 6e. On est presque. 5. Alors, je suis perdu. Et chercher ma face. Et s'il se détourne, attention à ça, de ses mauvaises voies. C'est quoi se tourner? C'est changer de direction. Tu vois, se détourner, c'est faire un virage. C'est dit virage. Un virage. Un virage, mais pas de 360 degrés, parce que sinon on va retourner dans le même endroit. Hein. Attention avec ça. Il y a des personnes qui disent, je vais faire un virage, je fais comme ça, et après je continue dans le même chemin. Ah, c'est pas ça. C'est faire un virage qui nous parle de la repentance. C'est un virage qui nous parle de changer de manière de penser. Hein? C'est bon, Andy? Ça y est? c'est prendre une décision qui va nous changer et qui va nous permettre de comprendre qu'on a besoin de repentance et de changer de manière de vivre. Et moi, à cette époque-là, je dis, bon, Seigneur, j'ai fait tellement de bêtises. Parce qu'on pense qu'on est... C'est ça le risque, quand on est dans un poste d'autorité. On pense qu'on a dans un poste d'autorité, des fois, moi je veux bien, je suis spirituel, j'ai fait ça. Et après, toc, on est dans le fond. Et alors je dis, Seigneur, ça sera une tâche difficile, comment je vais recommencer, comment tu vas m'aider à reconstruire tout ça. Hier, quand je rentrais soir, on a prié ensemble, ma femme et moi, parce qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que je lui demande pardon encore pour les bêtises que j'ai faites. Et moi, je suis très content de tous les échanges que j'ai vécu pendant ce séminaire. J'ai trouvé un pasteur d'Argentin, que j'ai eu l'opportunité de partager avec lui en espagnol, qu'il y a une entreprise, il y a une église. Et moi, j'étais comme un enfant. Ma famille m'a dit, Oscar, je pense que tu es comme un enfant. Parce que moi, j'adore ça. J'adore connaître les cultures, partager avec les gens, et être dans les séminaires et tout ça. Parce que c'est ça que j'aime, passer du temps avec les gens. Alors... Moi, j'ai eu l'opportunité de parler un peu. Moi, je n'ai pas cherché, mais j'étais en train de passer à manger dans le restaurant. Et après, il y avait à mes côtés la femme de Luc Boussière. Et après, il m'a parlé en espagnol, parce qu'il a écouté mon accent. Et après, il m'a donné 2 ou 3 conseils, et son mari aussi, que c'était pour ma vie et pour mon corps. Et pour essayer de vider, transformer ma vie et de continuer dans la restauration. Parce que des fois, on dit, bon, c'est bien, de ce côté, ça s'arrangeait, mais toujours, on est dans un processus de sanctification. On ne va pas finir ici, dans la terre. Non, je ne pense pas, parce que toujours, il y a quelque chose à traiter. Je t'ai demandé ce matin, qu'est-ce qu'il faut restaurer? Peut-être que tu peux dire, oh Seigneur, il y a 20 choses, ou 30, ou je ne sais pas. Mais tu peux commencer avec la plus petite. Tu peux commencer avec une chose. Et petit à petit, le Seigneur, il le fera. Et mon témoignage, c'est que hier soir, quand j'ai rentré, j'ai eu une conversation jusqu'à plus que minuit avec ma femme. Et on a échangé deux ou trois points. Mais j'ai dit, le Seigneur, il m'a montré ça. Alors, je vais me détourner. Et je vais dire, Seigneur, merci. Parce qu'une chose, que peut-être que ma femme, toujours, il m'a reproché. Et ce n'était pas la cause qu'on a tombé. Mais c'était, ça fait partie aussi. Mais moi, je dis, jamais je l'avais vu comme ça, mais il faut que je me détourne de cette situation. Amen. Amen. Bon, va finir, bientôt, va finir. Conversion, d'accord? Et la dernière, et avec ça on va prier, c'est restitution. Alors, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'ai, écoutez, qu'est-ce qu'il va faire le Seigneur? Ça, c'est la promesse. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je guérirai sa vie, je guérirai sa famille. Et c'est ça, une promesse de restauration et de restitution aussi. On va finir pour un verset que j'aime bien. Et c'est ça que le Seigneur il m'a donné pour finir ce matin. Et c'est un prophète, Joël. Et je vais essayer de chercher en français. Il s'appelle, comment il s'appelle en français? Joël? C'est pareil. Oh. Merci Seigneur. Ok, Joël est doux et verset 12. Je vais commencer par le verset 12 et après je vais sauter jusqu'à le 24. Verset 12. Mon nom encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre corps. Ça c'est la repentance, ça c'est changer de sens. Ça c'est conversion. C'est quoi la conversion? Quand je vois quelque chose qui j'ai fait qui ne va pas bien, et je tourne de direction. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre corps avec des... Ouf, ça, c'est difficile pour moi. Jeûne. C'est bien comme ça? Oui. Moi, dans ma tête, les jeûnes, jeûne et les jeûnes, et c'est la même chose. Ah, désolé. Mais bon, vous comprenez, tout le monde comprend un peu, non? Bon, merci Seigneur. Alors, revenez à moi de tout votre corps avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos corps et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répond des mots qu'il envoie. Amen. Verset 24. Ça, c'est la promesse. Il faut qu'on garde les promesses. Les airs se rempliront de blé. Et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Ça parle d'une bénédiction, de provision, de la promesse de Dieu pour nous. Dans ta vie, dans ta difficulté, dans la situation qu'il faut que tu vas rétablir dans ta vie. Alors, les cerfs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et de huile. Je vous remplacerai, c'est ça, les années qu'on dévorait la sauterelle, les gélèques, je ne sais pas c'est quoi ça, les assils et les gazams, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. On va célébrer le nom de l'Éternel, qu'il nous a guéris, qu'il nous a fait grâce et qu'il peut nous restaurer et nous donner la restitution. Parce que la restauration, il ne s'arrête pas seulement pour dire, bon, il va venir à l'état qu'il a été avant. Moi, je travaille dans la restauration des maisons. Alors, on voit une maison, on voit des photos, on peut voir à l'entrée, il y a un album photo, oui, de l'église. Et on voit l'église comme il était avant. Je parle du local physique. Et après, on voit comment il a été Ça fait, je ne sais pas combien de temps que c'était fait tous les travaux. 15 ans, 20 ans, plus. Mais on commence à voir que les choses, ils commencent à se dégrader avec le temps. Alors le Seigneur, il peut restaurer, mais il peut restituer aussi. Moi, j'aime bien finir par la musique. Je sais que j'ai fait les choses d'une manière différente que les cultes normales, mais bon, je vais profiter un peu que André n'est pas là et je vais faire autrement. D'accord? Maintenant, je le dirai. D'accord. Bon, on peut finir pour la musique. Oui, tu peux m'accompagner? Comme tu veux. Non? Ah, je t'embête tout le temps, Maureen. Non? T'as quelque chose? Tu connais la chanson et je suis pas plus esclave de la peur, quelque chose comme ça. On peut la faire? Ok, on est enfant de Dieu, non? On va chanter, on va glorifier le Seigneur, on va déclarer que le Seigneur il est bon, qu'il nous a donné son amour, sa grâce, sa paternité, qu'il est toujours avec nous, qu'il nous a aimés en première, qu'il nous a guéris, qu'il nous a rétablis. Et on va être très reconnaissant avec lui ce matin. Et je t'invite ce matin que tu ouvres tes lèvres pour dire Seigneur merci et que tu te rappelles de tous les moments que tu as passé et que tu as traversé en difficulté et que tu as vu la main du Seigneur agir. Et c'est ça qui va nous aider aussi. Je n'ai pas noté ici, mais la reconnaissance, c'est une clé qui va nous aider dans la restauration. Amen. Le Seigneur, il est au contrôle. Et même, il voit ton corps ce matin. Mais il sait comme tu es ce matin. Il te connaît parce qu'il sait. Même, on n'a pas besoin de dire quelque chose. Mais le Seigneur, il connaît déjà et il sait de qui on a besoin.